France Inter, 7h30, soyez les bienvenus. Le journal, Sébastien Legénie, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Au sommaire ce matin, la cave d'un bar qui se transforme en piège mortel. Il y a 3 ans à Rouen, 14 personnes perdaient la vie dans l'un des pires incendies des dernières décennies. Le procès du Cuba Libre commence aujourd'hui pour 7 jours, récit dans un instant. Quelle distance faut-il instaurer entre une maison et un champ traité aux pesticides? La question vous sera posée à partir d'aujourd'hui avec une nouvelle consultation citoyenne. Dans ce journal, la parole aux agriculteurs. Dans ce journal également, le PDG de Nissan prêt à rendre les clés, plombé par un scandale et par des chiffres en berne. Un bilan de la rentrée scolaire, les emplois du temps de première tournent parfois au casse-tête. Et puis pour terminer, un peu de glamour à Deauville avec sur le tapis rouge l'un des regards les plus fiévreux d'Hollywood à découvrir en une dizaine de minutes.
L'invité de Léa Salamé dans 20 minutes à 7h50 est aujourd'hui la garde des Sceaux, Nicole Belloubet.
France Inter.
Ils auraient dû, Sébastien, fêter l'anniversaire de l'une des leurs. Ils sont morts, asphyxiés.
Asphyxiés par des fumées toxiques au sous-sol d'un bar. C'était à Rouen le 6 août 2016. L'incendie tragique du Cuba Libre. 14 morts, des adolescents et de jeunes adultes entre 18 et 25 ans. Le procès des deux gérants commence aujourd'hui. Ils sont mis en cause pour de graves manquements à la sécurité et notamment l'utilisation dans l'escalier qui descendait à la cave d'un matériau hautement inflammable. Jean-Philippe Degnaud.
Dans la cave, tout le monde est prêt à chanter « Joyeux anniversaire ». Sarah descend le petit escalier avec le gâteau et 2 bougies qui scintillent. D'un seul coup, le revêtement en mousse de l'escalier prend feu. La porte de secours est fermée à clé. Les convives sont pris au piège. C'est l'asphyxie. Pour ces négligences aux conséquences catastrophiques, les deux gérants du bar vont donc affronter au tribunal la douleur et la colère des familles des victimes.
Ça va être dur, mais c'est le principal, c'est d'être debout, même si les yeux coulent. Mais de voir les deux personnes qui nous ont enlevé ce qu'on avait de plus cher au monde.
Depuis 3 ans, c'est de la survie. Nos enfants sont décédés et nous, on est partis en même temps.
Nasser et Amirouche risquent au terme de ce procès jusqu'à 5 ans de prison. Mais Maître Antoine Veil, un de leurs avocats, s'interroge sur le sens de la peine.
Ça dépend si en réalité on estime qu'on va réparer les larmes des victimes par le fait d'incarcérer 2 personnes qui eux-mêmes ont perdu leurs proches. Et moi je pense qu'on a aujourd'hui la possibilité d'avoir une justice qui, tout en disant l'importance de respecter la réglementation, va pas planter sur l'autel de l'exemple 2 personnes qui ont tout autant souffert que les autres de ce qui s'est passé.
Le tribunal se donne donc 7 jours pour établir les responsabilités et déterminer la sanction. Rouen, Jean-Philippe Degnaud, France Inter.
Ajoutons qu'à l'époque, l'ancien ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait prôné davantage de contrôle dans ces bars de 5e catégorie. Il en existe 200 000 en France.
Il est 7h33, Sébastien, on poursuit avec la nouvelle méthode du gouvernement, la consultation citoyenne.
Après le grand débat, après la consultation sur les retraites, voilà celle sur les pesticides. Lancement officiel aujourd'hui d'une consultation nationale de 3 semaines. Le gouvernement cherche à fixer dans la loi une distance minimale entre les champs traités aux pesticides et les habitations. Pour le moment, l'agence de sécurité sanitaire préconise des zones tampons de 5 à 10 mètres, ce qui fait hurler les écologistes et ne convainc pas du tout non plus les agriculteurs. Reportage en Haute-Loire, où se sont réunis hier le ministre Didier Guillaume et les jeunes agriculteurs, Victor Vasseur de France Bleu Saint-Étienne-Loire.
La première réaction de Daniel, c'est de lever les yeux au ciel.
C'est une grande bêtise.
Cette proposition, cet agriculteur de Haute-Loire et son amis ne veulent pas en entendre parler.
Mais à l'origine, il n'y avait que de la terre agricole, il n'y avait que des agriculteurs, il n'y avait pas de ville, il n'y avait pas de lotissement, il n'y avait rien. Mais ce n'est pas nous qui allons les empoisonner. On ne leur demande rien, on ne leur a pas dit de venir.
Une fois de plus, ce sont les agriculteurs qui sont pointés du doigt, déplore Johan, 22 ans.
Ça va changer quoi, 5 à 10 mètres, un petit coup de vent et hop, ça va voler pareil. S'ils nous trouvent une solution qui marche en face, pourquoi pas? Mais le problème, c'est que c'est pas forcément le cas.
Mais pour les associations de défense de l'environnement, séparer les maisons des champs de 5 à 10 mètres, ce n'est pas assez. Renaud est militant chez France Nature Environnement en Haute-Loire.
Ce qu'il faut savoir, c'est des produits qui sont très très volatiles et qui se déplacent très rapidement. Alors on a beau interdire le passage de pesticides en période de vent, mais on a tous vu des agriculteurs continuer à mettre des pesticides, même quand il y a du vent, donc ça reste assez dramatique.
Pour éviter d'enflammer le débat, le ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, propose du cas par cas. La mesure pourrait être adaptée en fonction de chaque commune.
Victor Vasseur de France Bleu, Saint-Étienne-Loire. Le gouvernement tranchera au mois de novembre pour une application à partir du 1er janvier prochain. Les pesticides, ce sera le thème ce soir du téléphone sonne animé par Fabienne Saintès. Là, pas de consultation, mais un remède que le gouvernement espère efficace. Agnès Buzyn va présenter cet après-midi son plan aux syndicats et au collectif Interurgence dans le but de mettre fin à 6 mois de grève. Hier, elle a promis sur notre antenne un budget dédié, au moins 600 millions d'euros sur 3 ans, selon nos confrères des Échos. On y revient dans un instant dans la chronique de Dominique. De nouvelles turbulences en vue pour l'alliance Renault-Nissan après la chute fracassante de Carlos Ghosn. C'est maintenant le PDG de Nissan qui veut démissionner. Il devrait l'annoncer aujourd'hui. Hiroto Saikawa, tombeur du PDG de Renault, est lui-même éclaboussé par un scandale financier au Japon, un trop-perçu dans sa rémunération, une affaire qui s'ajoute surtout à des résultats catastrophiques. Les précisions à Tokyo de Yann Rousseau.
Après avoir longtemps tergiversé, Hiroto Saikawa se serait fait une raison et il aurait informé ce week-end plusieurs de ses proches dans le groupe de son intention de démissionner. Alors, il ne s'agit pas d'un départ immédiat ce lundi soir, mais le patron va demander à la direction de lui trouver un successeur le plus rapidement possible. Une liste de candidats potentiels circule d'ailleurs déjà en interne, mais il n'y a aucune personnalité évidente qui en ressort. Après la chute de Carlos Ghosn en novembre dernier, Saikawa avait expliqué qu'il allait rester aux commandes le temps d'assainir le groupe. Il se donnait même 2 ou 3 ans pour faire ce travail, mais ces dernières semaines, il est apparu tétanisé par la dégradation brutale des résultats. Les profits trimestriels de Nissan ont plongé de 99% et face à cette situation, Saikawa semblait manquer d'idées pour rebondir. La semaine dernière, de nouvelles révélations sont venues encore ternir son image. Un audit interne a montré qu'il avait touché un bonus irrégulier en 2013. Il avait perçu 400 000 euros de trop. Alors il a expliqué qu'il n'y était pour rien et qu'il allait rembourser cette somme, mais pour ses derniers soutiens dans le groupe, c'est trop tard. Son crédit est trop entamé et son départ apparaît comme la seule solution.
Yann Rousseau à Tokyo. On reste au Japon avec ce puissant typhon qui s'est abattu cette nuit sur la région de Tokyo. Des vents à plus de 200 km/h qui ont fait à ce stade 1 victime. Près d'1 million de personnes ont été privées d'électricité. L'ouragan Dorian, lui, a atteint ce week-end les côtes canadiennes avec des vents soufflant à 150 km/h. Il laisse derrière lui aux Bahamas un pays ravagé. Dernier bilan en date, 43 morts.
Il est 7h37, une semaine après la rentrée. Sébastien, comment s'applique la réforme du lycée sur le terrain?
Pas de situation chaotique, mais encore quelques confusions. Certains lycées n'ont toujours pas leur nouveau manuel scolaire. Problème d'acheminement dans les régions. Pas simple non plus avec les emplois du temps des classes de première qui inaugurent les nouveaux enseignements de spécialité. Ainsi, pour offrir davantage de choix à leurs élèves, plusieurs lycées ont décidé de mutualiser les moyens. L'un propose philosophie, l'autre informatique par exemple. En clair, il faut parfois aller dans le lycée voisin pour suivre ses cours et cela nécessite encore quelques ajustements. Le reportage de Sonia Princey au lycée Victor Hugo à Paris.
Dans le hall du lycée Victor Hugo, les élèves se préparent à partir.
Andrea.
Nino est ravi.
C'est bien, ça me fait bouger, ça me fait sortir un peu, quoi. Pour les petits lycées comme ça, on peut avoir plus de spécialités. Après, il y a des grands lycées qui ont déjà les spécialités, mais nous, c'est bien pour ce lycée-là.
Erwan, c'est où ?
Le cours de numérique et sciences informatiques NSI commence dans moins de 10 minutes au lycée Simone Veil, à 500 mètres de là.
Ah bah c'est là.
On est à côté, donc ça prend 5 minutes, ça va, ça ne dérange pas.
Elsa et ses camarades sont accueillis par le proviseur et par le professeur Bertrand Schall.
C'est vrai qu'il faudra essayer de partir un peu plus tôt parce qu'on vous attendait, le cours commence à 10 normalement. Voilà.
C'est positif puisque dans notre lycée, si nous n'avions pas mutualisé, on n'aurait pas, je pense, eu un vivier d'élèves nécessaire et la spécialité n'aurait pas été ouverte. Après, je comprends que ça pose des difficultés pour la direction. En donnant l'embarras du choix aux élèves, on a fait le choix de l'embarras.
Alors j'ai vu quelqu'un arriver en retard.
Un premier retardataire, 4 retardataires une demi-heure plus tard. Les horaires entre les deux lycées ne coïncident pas, comme le regrettent Vernet et Céleste.
Si j'ai cours normalement de 12h20 à 13h20 et qu'ici je commence à 13h10, ça va pas. C'est pour ça que je trouve qu'il y a un petit inconvénient quand même à mutualiser les lycées si les horaires ne conviennent pas.
En fait, j'ai 2 spécialités, l'une en même temps que l'autre.
Tout n'est pas au point, les proviseurs vont devoir retravailler les emplois du temps.
Reportage de Sonia Princey, retrouvé en image sur franceinter.fr. Une rentrée beaucoup plus tourmentée cette fois à Hong Kong. Depuis ce matin, plusieurs centaines de lycéens vêtus de leur uniforme scolaire et équipés de masques forment des chaînes humaines dans différents districts de la ville en soutien au mouvement de contestation pro-démocratie.
Et on termine, Sébastien, avec les paillettes du festival de Deauville et une surprise de dernière minute hier.
Il fut marié à une célèbre chanteuse française. Il joue les pirates déjantés, j'ai nommé Nicolas.
Johnny Depp. De son retour à la Mostra, la star a fait un crochet hier par la Normandie, de quoi enflammer le tapis rouge de Deauville. Nolwenn Lejeune de France Bleu Basse-Normandie.
18 ans qu'il n'était pas venu sur les planches et Johnny Depp, invité de dernière minute, a offert au festival un moment comme il les aime, la pose avec Catherine Deneuve devant les photographes. C'est elle qui lui rend hommage ensuite.
Nous l'avons aimé adolescent rêveur dans Arizona Dream d'Emir Kusturica, créateur exubérant, dans Charlie et la chocolaterie de Tim Burton, ou irrésistible pirate des Caraïbes de Gore Verbinski. Johnny Depp est un caméléon fascinant, un acteur insaisissable.
Elle est pour moi la perfection, lui répond Johnny Depp, qui après avoir remercié le festival pour l'hommage, remercie aussi sa famille.
I want to thank Lily Rose, I want to thank Jack, and especially their amazing mother, Vanessa Paradis. Merci beaucoup.
Et dehors, le public impatient a finalement été récompensé de sa très longue attente. Johnny Depp a redescendu tout le tapis rouge.
Il serre la main, il fait des autographes, photos. Et...
Ah, on est venu juste pour lui en vrai.
Je lui ai fait un câlin. Incroyable quoi. C'est mon acteur préféré depuis que je suis petite. Et j'ai réalisé un rêve.
Et la star est repartie, laissant encore quelques larmes à sécher, mais surtout beaucoup d'étoiles dans les yeux de ses fans.
Nolwenn Lejeune de France Bleu Basse-Normandie, le festival de Deauville, ses films, ses stars et ses cabines de plage, c'est jusqu'au 15 septembre prochain. Sébastien Legénie, merci.